Alors, il y a une grande préface des Tikkun HaZohar. Les Tikkun HaZohar, c'est 70 chapitres, 70 manières de lire le mot Bereshit. Et il y a une des préfaces qui donne l'enseignement suivant à propos d'une des mitzvot de la Torah. Je ne sais pas si on va rentrer dans la paracha, mais on est dans le sujet quand même. Qui s'appelle le Kantzipor. Lorsque on est en chemin, et que par hasard on rencontre un nid d'oiseau, qui karelecha Kantzipor baderken, et qu'on voit la mer couver les petits, on n'a pas le droit de prendre la mer sur les petits, il faut renvoyer la mer et prendre les petits. C'est une mitzvah très difficile. Tous les théologiens qui critiquent cette mitzvah par la miséricorde de Dieu sur le nid de l'oiseau ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'il y avait miséricorde sur le nid de l'oiseau, on prend ni la mer ni les petits. Qu'est-ce que cette cruauté de renvoyer la mer pour prendre les petits? On appelle ça la miséricorde. Je ne sais pas si vous voyez que les pashtanim y comprendraient. Okay. Or, si vous étudiez le... Eh bien, cette paracha, c'est bientôt que vous allez la lire. C'est dans Kitetsé. Dans Ré Mishpatim Kitetsé. Vous étudiez le texte, vous voyez qu'il y a un verset très caractéristique. Et la mer, si tu rencontres un nid où la mer couvre les œufs, et que la mer est rebaissette, accroupie sur les poussins, renvoie la mer et prend les petits. Il y a trois mots différents. Betim, Ephrohim, Banim. Et les Tikkun HaZohar disent, Betim, c'est les marais Mikra. C'est ceux qui enseignent le Mikra. Ephrohim, c'est les marais Mishnah. C'est ceux qui enseignent la Mishnah. Et Banim, c'est marais Kabbalah, ceux qui enseignent la Kabbalah. Ça veut dire, si tu rencontres une mère qui, en couvrant son nid, empêche les poussins de devenir des petits, des Banim, renvoie la mère et sauve les Banim. Rentrez vous asseoir parce qu'il y a la place. Vous avez compris l'idée de la mitzvah? Et alors, c'est clair pour tout le monde, il y a trois niveaux. Okay. Ça veut dire, je vous conseille, si le sujet vous intéresse, de commencer par le sujet avec le commentaire de Nahmanide et sa grande controverse avec Maïmonide sur cette mitzvah, dans le micro de Gdolot. Et alors, je voudrais juste dire l'essentiel pour notre sujet. À ce propos, le Tikkun HaZohar dit, il n'y aura que deux exils. Parce que le verset dit, Shaleach teshalach et haem vetabanim tikachlach. Renvoyé, tu renverras la mère et tu prendras les enfants pour toi. Et alors, c'est relié à tous les versets, surtout auprès de Jérémie, où Dieu parle de l'exil comme le renvoi de Knesset Israël, le renvoi de la mère. Et alors, il y a eu deux renvois, il n'y en aura pas trois, dit le Zohar. Shaleach teshalach, Baït Rishon, Baït Sheni, mais le troisième Baït, il n'y aura pas d'exil. Bien compris. Vous voyez que toutes ces données, c'est, il y a une érudition derrière, mais il faut effectivement la lire, l'apprendre. Et alors, voilà pourquoi je vous dis cette remarque du Rav que je vous ai citée est importante, parce que c'est un problème contemporain. Et je vais vous raconter une anecdote personnelle. Je ne vous avais pas le nom du Rav. C'est un très grand rabbin que je suis allé voir pour prendre congé de lui quand j'ai décidé de faire ma aliyah à partir de Paris, à l'époque j'habitais Paris, il y a longtemps. Et alors, il m'a regardé avec admiration stupéfaite. Il m'a dit, comment, quel courage d'aller en Israël. Je lui ai dit, le courage. Mais, non, je n'ai pas le courage, je vais. Un autre rabbin m'a dit, mais vous êtes un déserteur. Je ne sais pas si vous rendez compte. Il y a un rabbin pour qui j'ai énormément de respect, mais spontanément, il dit, comment vous nous quittez? Mais vous êtes un déserteur. Je dis, je ne vous quitterai pas complètement, mais rien que l'idée, déserteur, de partir de Paris à Jérusalem, qu'est-ce que dirait Chateaubriand en itinéraire de... Alors, c'est pas mal ça, itinéraire d'un déserteur, de Paris à Jérusalem. Alors, je reviens au premier rang, qui m'a expliqué ce qu'il voulait dire. Il dit, il y a dans le monde une lutte entre le côté du bien et le côté du mal. En dehors des restes d'Israël, cette lutte, nous l'avons avec les sarim, avec les génies du mal. Mais en restes d'Israël même, ce qui est en face de la sainteté des restes d'Israël, c'est colossal comme force du mal. Alors de ça, il faut avoir peur. Cet argument, vous avez dû l'entendre sous différentes formes, ok? est-ce qu'on a le calibre possible pour vivre en Eretz Israël? Parce que faire une faute à Paris, malèche, on reste une faute. Mais faire une faute à Jérusalem, Dieu préserve. L'antagonisme entre le bien et le mal, bon, c'est un thème qui existe. C'est vrai, la Kedusha à l'Eretz Israël fait que l'anti-Eretz Israël est plus fort que partout ailleurs. D'ailleurs, on le sent. Le monde entier. L'antisémitisme antisioniste dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Et s'il n'y avait pas l'aide de Dieu par l'armée d'Israël, on ne serait pas là. Et tout le monde sait ça. S'il n'y avait pas de Sahara, il n'y a pas un juif vivant dans ce pays. Et ni ailleurs, d'ailleurs. Enfin, c'est un autre problème. C'est pourquoi je voulais vous citer ce Zohar. C'était vrai tant qu'on était dans la dimension Zachar Hishena. Si vous avez suffisamment de mérite, le temps de la fin d'exil, je l'accélère. Im Zachar Hishena. Mais si on est dans la dimension que le temps est arrivé, il n'y a plus de clause du mérite. C'est le problème du temps de la sortie d'Égypte. Le temps est arrivé, c'est inconditionnel. Est-ce que vous compris toute cette étude? Bon. Alors, ceci dit, on peut commencer à lire le... Alors maintenant, vous aurez dû me demander, d'où on sait que le temps est arrivé? Bon, ça aussi, ça s'étudie. Et vous pensez bien que... Les maîtres qui citent ces sources, comment on disait, ils ont des biscuits, ils savent de quoi ils parlent. Alors, si ça vous fait plaisir, un jour on fait un séminaire là-dessus. Comment sait-on que le temps est arrivé, okay? Mais dans tous les cas, qu'on sache ou qu'on ne sache pas, ça n'a pas de sens de discuter si bientôt va faire jour alors qu'on est en plein midi. Parce que c'est clair. En tout cas, pour revenir. Au problème, on va pouvoir commencer à lire les premiers versets. Pas de questions? Bien fait, ok. Attendez, le temps d'une bracha. Je connais les gens. Ok.
La sortie d'Égypte a été avancée de ce qui sera.
Par le mérite d'Isaac.
Et non pas par le mérite des Juifs de ce temps-là. Est-ce que finalement, ce qui nous a...
C'était pas des Juifs, non, c'était des Hébreux. Attendez. Il y avait quand même un seuil qui a permis que le mérite d'Isaac joue. Il y a une différence entre le mérite d'acte et le mérite d'être. Et je vous cite, je profite du début de ta question avant la question, je vous cite le Midrash qui dit clairement, grâce à quatre choses, les Hébreux ont pu sortir d'Égypte. Ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leur langue, ils n'ont pas changé leurs vêtements et ils ont gardé la pudeur, en particulier la circoncision, la tzniout. Okay? Mais tous ces critères-là, c'est des critères nationaux, avant que la Torah ne soit donnée. Okay? Le nom, la langue, le vêtement, il s'agissait bien sûr du nom, de la langue et du vêtement hébreu. Il ne s'agissait pas de... Nos ancêtres en Égypte n'étaient pas habillés en marocain. Okay? Je là-bas... Comment on disait en Algérie, j'ai oublié. On disait Abaya, non, ça c'est en Tunisie. Comment on disait Gandoura. J'ai pas parlé du reste. c'est les critères nationaux. Et la circoncision, il avait d'Abraham. Et la tzniout de Sarah. Enfin, des patriarches et de leurs femmes. Et donc, il y avait quand même un seuil de mérite d'être. Et, quelle est la question?
Il y avait chamboulé parce que je parlais qu'il n'y avait pas de mérite parce que vous aviez parlé qu'on était à la
42e porte.
Ouais. Donc j'étais en train de dire qu'il n'y avait pas de mérite et que peut-être que nous aussi on est dans une période où on ne sait pas si on a un mérite.
Oui,
et peut-être que grâce au mérite des
patriarches,
on va peut-être. Mais
si,
pas
non. Si tu avais dit cela avant la fondation de l'État d'Israël, on pourrait raisonner. Mais maintenant, c'est dire qu'il va faire jour alors qu'on est en plein jour. Je ne sais pas si c'est clair. De quoi on parle? Et à partir du moment, il faut bien comprendre les catégories qu'on utilise. Il s'agit de cette catégorie de l'inconditionnalité. Et à partir du moment où l'enfant est né, il est né.
Je veux dire,
non, mais j'ai compris la question. J'ai compris la question. Mais quand j'aurai fini, tu me diras s'il reste un bout de la question. De l'inconditionnalité, c'est-à-dire la relation du peuple d'Israël et la terre d'Israël. Alors il y a des hauts et des bas. Ça, c'est les stratégies. De la providence, si je veux dire, et qui dépendent de notre mérite, des actes, bien entendu. Mais le fait même de la sortie d'Égypte, donc de la sortie d'Europe, du lien entre Israël et la terre d'Israël, ça c'est irréversible. Et alors, nous avons des clins d'œil de la Providence. Je me rappelle l'enseignement du Rafou quand il disait, il parlait de lorsque Dieu agit incognito. Il savait le français, puisque son père et lui avaient été, comment dire, retenus en Suisse au moment de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Et donc, ils ont été obligés de fonctionner en français suisse. Et puis, il lisait le français. Il parlait pas français, mais il lisait le français. Il disait incognito avec un accent yiddish. Et puis, je veux dire, bon, le Rav Kook avait pu s'échapper de Suisse pour aller à Londres au moment où il y avait les tractations sur la déclaration de Balfour. Et c'est parce que Rav Kook était à Londres que la déclaration de Balfour a été signée. Parce que l'ensemble des rabbins de Londres, enfin l'immense majorité, était contre. Et par miracle, le Rav Kook était à Londres, alors la déclaration de Balfour a été signée. Parce que les synagogues orthodoxes de Londres avaient fait des pétitions pour empêcher que l'Angleterre signe la déclaration de Balfour. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Bon, en tout cas, pour refermer la parenthèse, c'est à ce niveau-là que c'est inconditionnel. Comment ça se passe? Le prix à payer, ça, bien sûr, la clause du mérite, ça, sans problème. On a déjà ici, par ta question, un des éléments de réponse à notre problème. Vous voyez la différence de niveau. Maintenant, est-ce que c'est ça que tu veux demander? Donc,
vous avez parlé du mérite d'Itsraël. On ne parle pas beaucoup d'Itsraël dans la Torah. On sait, par exemple, qu'il avait des préférences, enfin, il aimait beaucoup plus Esav parce qu'il faisait la chasse.
Mais finalement, il l'a chassé. Ne parlez pas de chasse aujourd'hui. Non, mais continue.
Vous avez dit qu'il va y avoir un cours spécial sur Yitzhak.
Ah oui.
Vous serez le premier à venir.
Bien sûr.
Mais oui. je ne vois pas du tout les mérites. On n'en parle pas beaucoup.
Comment on n'en parle pas? On en parle abondamment. Seulement, en général, on fait l'impasse. C'est comme ça qu'on dit. Parce qu'on ne comprend pas. Tant qu'on n'a pas étudié les sources dans la Kabbalah, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que l'identité des trois patriarches. On connaît du point de vue du Pshat le fait que c'était trois grands tzadikim. Mais en quoi c'était pas des sosies? Et en quoi c'était pas, je ne parle pas au point de vue physique, interchangeable? En quoi il fallait ces trois-là? Ça s'étudie dans la Kabbalah. Bon, alors bien sûr, comme vous savez, ici on n'étudie pas la Kabbalah. Ne croyez pas que c'est de la coquetterie. On n'étudie pas de Kabbalah. Seulement on sait que ça existe. C'est clair, hein? Comme si vous allez en taxi et que vous demandez une Kabbalah, c'est pas la même. Très souvent, j'ai un choc. Quand le chauffeur de taxi me dit « T'as reçu Kabbalah ?» Il me dit « Bien sûr. » Alors, c'est pour répondre à votre question, c'est la raison pour laquelle. Et alors, on dit d'Abraham et de Jacob plus facilement, parce qu'Abraham, c'est le commencement. Alors, il y a un choc de la découverte de l'identité patriarcale. Jacob, c'est la réussite. Mais Isaac, c'est le drame de celui qui est le fils du père et le père du fils. Or, c'est de lui que ça dépend. J'espère que j'ai au moins formellement mis ça en évidence. Okay? C'est de lui que la Torah nous fait dire « Rira bien qui rira le dernier. » Puisque Isaac, c'est le rire à la fin. Torah, tu diras ça à l'état du Talmud, ça je vous le promets. Bien. Qui n'a pas d'autres questions, j'enchaîne parce que je crains que. Une minute. Quoi, déjà? Bah. Non, ça c'est pas évident. Oui.
Sur la paracha, toute la semaine, pourquoi on dit ré et on ne dit pas schéma?
Il a fait. J'allais juste poser ça. Oui, là. Je vous signale, entre-temps, j'ai appris un diouk. Maintenant, vous savez que c'est un diouk. C'est pas un djouk, ça tu J'avais un djouk d'un de mes anciens élèves, et il faut toujours citer de qui en apprendre. C'est Georges Weiss, je ne sais pas si vous connaissez. Je vous dis, d'un ancien élève d'Orsay. Il sévit comme dentiste à Jérusalem. Vous savez qu'est-ce un dentiste? J'espère que je n'ai choqué personne. Hein. C'est un docteur escroc. Non, mais c'est un brave type. Alors, il m'a fait remarquer une chose. C'est, vous reprenez la prochaine de Vaikranan, vous verrez que avant la promulgation des 10 commandements, il y a surtout Ré Israël, Ré Israël, Ré Israël. Juste après les 10 commandements, il y a Shema Israël, Shema Israël, Shema Israël. Alors, en tout cas, vous vous référez à l'étude qu'on a déjà eue. Je vous signale, étudiez cela et vous me direz la prochaine fois qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse. Pourquoi avant les 10 commandements c'est Ré, pourquoi après les 10 commandements c'est Shema, en dominante. Ça, on a étudié une fois qu'il y a les deux interpellations ou consignes, puisque vous parlez du sujet, puisque je parle du sujet, je veux même succinctement le rappeler pour ceux qui n'ont pas déjà étudié. Il y a deux manières de connaître, selon, dans l'ordre de l'enseignement de la Torah, il y a deux expériences de l'évidence. L'évidence, qui se formule, je parle français, par l'expression « tu vois », c'est aussi vrai que je te vois, c'est aussi vrai que je vois que le soleil brille, l'évidence par la vue, Réa, et puis l'évidence par l'entendement. Tu entends ? Oui, dans les deux cas, on va dire tu comprends, mais en se référant à deux expériences. Deux expériences, un, la preuve par la vision, la preuve, ça me revient en ancien français parce que ça rime avec je treuve en ancien français. Je vous ici une petite parenthèse. En français moderne, on emploie le terme de preuve pour parler d'un raisonnement. Par exemple, la preuve par neuf. Okay. Mais la preuve se trouve, s'éprouve. La preuve, c'est par l'expérience, c'est pas par le raisonnement. La preuve, c'est ce qu'on voit. L'expérience, dans la méthode expérimentale, l'expérience que les savants appellent expérience cruciale, c'est pas de la théologie, l'expérience cruciale, c'est ce qu'on voit dans l'expérience, qui confirme ou infirme l'hypothèse. Okay. Tandis que employer les termes de preuve pour parler d'une évidence par le raisonnement, c'est faux en français. Et pourtant, on parle des preuves de l'existence de Dieu en se référant à des démonstrations, mais c'est du français pas exact. Okay. La preuve de l'existence de Dieu, c'est la révélation, l'événement historique de la révélation. Le raisonnement va nous faire exploser la preuve. Mais aucun raisonnement n'a jamais prouvé quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'il ne convainc que les persuadés, c'est-à-dire ceux qui admettent les postulats du raisonnement, ceux qui admettent les prémices. Si j'admets les prémices du raisonnement, la conclusion me convainc, mais si je n'admets pas les prémices, le raisonnement a beau être exact, il n'est pas convaincant si je ne suis pas déjà persuadé. Le raisonnement, ça sert à l'exposition de la connaissance par la preuve. Vous voyez donc l'excellence de la connaissance par la vue sur la connaissance par l'ouïe. C'est clair. Ça vous semble paradoxal parce que la dominante pour la Torah, c'est Shema, c'est pas Ré. Mais je vais expliquer. Alors, d'autre part, les Ré, raisonnement, c'est ce qui me permet de comprendre ce que j'ai vu. Le Shema Israël, tu entends, ça veut dire ce que tu as compris. Quelqu'un explique ce que j'ai vu mais que je n'ai pas compris. Mais finalement, l'important, c'est ce qu'on a vu. Puis ça s'est caché. Ça s'est révélé, ça s'est caché, et on m'explique ce que j'ai vu. Au Sinaï, on a vu. Et pourtant, le verset dit, vous n'avez rien vu. Vous n'avez vu que la voix. Vous vous rappelez de tous ces versets. Alors, quelqu'un va venir expliquer ce qu'on était censé voir. Ça veut dire ceci. Que si on commence par la vue, on tombe dans l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est un idolâtre ? C'est des gens qui voient. En français, c'est pas simplement une façon de parler. Ils ont des visions. Mais pour avoir des visions, il faut être capable de voir. Alors les gens qui voient, ils ont des visions. Maintenant, si on a entendu, c'est-à-dire si on a compris ce qu'on a vu, alors on est appelé, après l'entendement, à voir. Sans risque d'hydrate. Vous avez compris ça ? Faites bien attention à ça. Je devrais parler une heure de ça. Mais enfin, je l'ai signalé. Et alors, nous avons deux formules de l'invitation à la connaissance. Tachma, ça veut dire viens comprendre ce que tu as vu. Et puis, tahazé, viens voir ce que tu as compris. Mais pour la halakha, c'est clair. La connaissance par la vision est plus forte que la connaissance par l'entendement. Mais si on n'a pas commencé par la vision, par l'entendement, on tombe dans le délire. C'est bien clair ? Des gens qui voient des choses, qui ne comprennent pas. Combien de gens sont persuadés que le Messie est là parce qu'ils ont trouvé une pâquerette à 5 feuilles ? Alors, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe en Israël. On en a trouvé une pâquerette à 5 feuilles, donc le Messie est là. Et on a trouvé la pâquerette à 5 feuilles partout ailleurs dans le vaste monde, sauf ici. C'est pas grave. Bon, vous avez compris ce que je dis. Oh, paralyse. Les gens qui déchiffrent des symboles. Et alors, ils vont au Kotel et ils font la queue pour qu'on leur mette un fil de laine rouge au bras gauche. Bon, bref, je reviens au sujet. Symbole, prier pour nous. En tout cas, pour revenir au sujet, on a été appelé à voir. Et puis la vision s'est cachée. Et alors, il faut entendre de quoi il s'agit. Et ce n'est que lorsqu'on sera appelé à voir ce qu'on a compris qu'on aura vu. Hein? C'est pour ça que nous prions en demandant avec Hezena, Enenu, et que nos yeux voient. Parce que ils ont des yeux, ils ne voient pas. Alors on demande que les yeux voient. Donc, en tout cas, pour la halakha, un témoignage d'un témoin visuel est plus fort qu'un témoignage au second degré de quelqu'un à qui on a dit, que quelqu'un a dit, que quelqu'un a vu. Vous connaissez le par Riya ou par Shmia, Gdola Riya Mishmia. Vous connaissez cette phrase française, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Mais c'est celui qui a vu l'ours qui a vu l'ours. L'autre, c'est celui qui a vu l'homme. Vous avez compris là. Voilà. Alors ici, il y a une expérience par la vue. Je réponds à votre question. De la sortie d'Égypte, ils ont vu qu'est-ce que c'est la bracha et ils ont vu qu'est-ce que c'est la klala. Voilà. Ré, vois. Je donne devant toi aujourd'hui la bracha et la klala. La bénédiction et la malédiction. C'est l'expérience de la génération de la sortie d'Égypte. Ils ont vu de quoi il s'agit. Alors, j'ai malheureusement pas le temps d'entrer en détail, en profondeur dans le problème, mais je vais aller assez rapidement. Vous verrez que l'alternative, au début de la paracha, c'est bracha ou klala. C'est pas annoncé de la même manière, ça on va étudier, mais cette alternative. L'histoire d'Israël est une histoire telle qu'elle peut pas être neutre. Elle peut pas être parvée. Okay? Il n'y a que les parvenus qui sont parvés et déshabillés. Parvé, ça veut dire ça veut dire neutre. Vous avez compris. Ça veut dire ni l'un ni l'autre. Donc, tu crois qu'en yiddish, on dit ni viande ni lait. Comment on dit en yiddish ?
En yiddish. En yiddish. Ni l'un ni l'autre.
Mais parva, c'est la fourrure. Mais parvenu, c'est parvenu. Alors, en tout cas, ça veut dire il y a un indice de paroxysme, comme je dis souvent, dans l'histoire juive. Nous sommes appelés à un destin tel, une destinée telle, que il faut savoir que c'est où la bénédiction ou la malédiction. Et ça, on l'a vu. Et on l'a vu par expérience. Ré, Anochi, c'est moi qui te donne les deux. Le verset est très clair. Okay. Alors, et Taberacha, Asher, Tishmeu. Non, avant d'entrer là. Mais à la fin de la paracha, vous verrez qu'il ne reste plus que la bracha. Et vous verrez, vous lirez vous-même, vous verrez à la fin de la paracha, Shabbat, vous allez la lire, Zamet, soi-disant, vous allez la lire, vous allez l'écouter. Et alors, vous verrez que, après le rappel des 3 fêtes de pèlerinage, il n'y a plus que la bénédiction qui nous permet de faire des dons à la Torah. Non, mais c'est exactement ça. On va lire le dernier verset de la paracha. Voilà, vous prenez le chapitre 16, verset 17. Après le rappel des liturgies de Pessah, Shavuot, Sukkot, les 3 fêtes de pèlerinage, Ish Kematenat Yado, chacun selon le don de sa main, Kebirkat Hashem Elokecha Shana Tanach, d'après la bénédiction de Hashem, ton Dieu qui t'a donné. Il s'agit des dons que l'on apportait au temple. Et alors, malgré tout, la bracha et la klala sont introduits de manière différente. Et ta beracha, la bénédiction, Asher Tishmeu, en ce que, Asher, en ce que Tishmeu, vous écoutez, et le mitzvot Hashem Elokechem, les mitzvot de Hashem, votre Dieu, Asher Anochim et Tzavet Noayob, que je vous prescris aujourd'hui. On verra ce que dit Rashi sur ce Asher. Alors que la klala et la bénédiction, Imlot Tishmeu, si vous n'écoutez pas les mitzvot d'Hashem Elokechem, les sortez minaderech et que vous écartez du chemin, Asher Anochi Metzave Etrem, Ayom, que je vous prescris aujourd'hui, la Leche Kahare Elohim Acherim, Elohim Acherim, poursuivre d'autres dieux, Asher Voye Dartem, que vous ne connaissez pas. Vous voyez que, ici, un enseignement important sur la fin du verset, le fait de ne pas pratiquer la Torah, ça met sur le chemin de l'idolâtrie. Le Talmud a un enseignement extrêmement clair. Celui qui renie l'idolâtrie équivaut à celui qui accomplit toute la Torah. Il y a deux mitzvot qui sont comme ça. Mitzvah positive, celui qui pratique le Shabbat, et mitzvah négative, celui qui renie l'idolâtrie. Et effectivement, il y a, c'est ça la question qui se pose à nous. On va le comprendre avec un petit rachis très difficile, et j'essaierai de vous proposer une explication. Quel est le problème? D'une part, on apprend qu'il n'y a pas de condition, c'est inconditionnel. D'autre part, on apprend qu'il y a une alternative. Si vous accomplissez, il y aura bénédiction, c'est manqué d'ici. En ce que vous accomplissez, il y aura bénédiction. Si vous n'accomplissez pas, il y aura malédiction. Et vous verrez que la réponse est très simple, finalement, il n'y a pas de contradiction. Mais Rashi sur Asher Tishmeu. Vous y êtes? Vous avez Rashi sous les yeux? Et ta beracha. Verset 27, et ta beracha, la bénédiction. Rashi dit, Almenat Asher Tishmeu. Quelqu'un va m'aider de traduire ça. Almenat Asher Tishmeu, qu'est-ce que ça veut dire? Un seul à la fois est fort. Okay? Qui ose? Et ça veut dire que la bracha est donnée avant. C'est clair? Vous voyez que Rashi semble dire tout à fait autre chose que le texte. Comme on a lu le texte, ça veut dire, à la limite, par le fait que, de ce fait que vous appliquez, vous aurez la bracha. Puisque le balancement, c'est si vous n'appliquez pas, vous aurez la clala. Rashi nous dit, faites attention, okay? La bracha, je vous la donne. Almenat, Asher Tishmeu, en vue de ce que vous accomplissez. Et c'est si vous n'accomplissez pas, que vous aurez la clala. Alors là, il y a un thème extrêmement important. Vous voyez comment les commentateurs nous font lire le texte. Si on n'avait pas lu Rashi, on aurait traversé le texte sans rien voir, comme pour Isaac. Et, en fait, je me souviens que c'est la semaine dernière, je vous ai parlé de Julie Isaac, non? Je vous ai parlé de Julie, c'est pas à vous? Non, non, c'est pas à vous. Et à qui? Non, c'était à Nathaniel. Est-ce que c'était un hôtel? Oui, c'était un hôtel. Alors, c'était avant-hier. Alors, je reviens. Il se passe tellement de choses dans ce pays. Je reviens au sujet. Là, ici, il y a un thème très important que je voudrais mettre en évidence. Nous avons une règle. Il y a énormément d'exemples chez les commentateurs. Tout est donné à l'avance. Si on mérite, c'est confirmé. Si on démérite, c'est repris. Voilà, voilà le principe. Et alors, je vous cite, c'est l'enseignement de Nachmanide, qui est beaucoup plus ample que ça, mais je n'ai pas le temps, l'enseignement de Nachmanide sur la raison pour laquelle des récits incompréhensibles à première lecture précèdent les mitzvot de la Torah. Nachmanide dit, c'est pas seulement le premier chapitre, comme tu pourrais croire en lisant Rashi, que Rashi se demande pourquoi ce premier chapitre n'est pas écrit puisqu'on ne le comprend pas. Okay? On ne le comprend pas à la lecture. Hein? Et donc, et en principe, le premier chapitre de la Torah, on n'a pas le droit de l'étudier en public. On a le droit de le traduire en public, mais pas de l'étudier en public. Vous connaissez la règle, c'est dans la Masrèche Hagiga. Alors pourquoi c'est dans la Torah écrite? Nachmanide ne va plus loin. Il dit tous les récits, depuis le récit de la création jusqu'au récit de la sortie d'Égypte. On ne comprend pas. Si quelqu'un ne nous dit pas ça, ça veut dire ça, 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 voilà comment il faut comprendre, énormément de gens lisent ça comme si c'était des contes de fées. Et ils sont fiers. Nous avons l'Iliade et l'Odyssée du peuple juif. C'est la Bible. Okay. Énormément dans les universités non religieuses, dans les écoles non religieuses, on lit ça. Comme si on lisait l'Iliade et l'Odyssée, et les professeurs n'ont pas pitié des élèves, parce que les élèves inévitablement se disent « Mais qu'est-ce que tu racontes, l'Iliade et l'Odyssée ?»« L'Iliade et l'Odyssée, au moins c'est beau, mais ça on comprend rien. » J'ai compris ce que je dis. Et ça me rappelle une anecdote de Misra d'Achinou. Je ne sais pas si je vous ai raconté que j'ai fait partie de la commission nationale, l'éducation nationale pendant 5 ans, sur l'enseignement malartinatif. Et puis... un jour, un rabbin, dans une des séances, a raconté cette histoire. Un professeur de Bible, Chiloni, qui ne croit pas, mais il est professeur de Bible. Hein. Pourquoi est-ce qu'il ne croit pas des professeurs de Bible? Bon, c'est son métier, il aime ça. Il enseigne la Bible, et il s'est plaint devant son inspecteur des difficultés qu'il avait pour faire comprendre aux enfants ce que lui aimait lire. Il ne croit pas, mais il aime lire ça. Alors l'inspecteur lui a dit, tu sais pourquoi tu as des difficultés? C'est parce qu'il ne croit pas. Il dit, mais je ne peux pas y croire puisque je n'y crois pas. Il dit, c'est ton métier, tu ne crois pas, crois, sinon on change de métier. C'est clair. Et effectivement, c'est très étonnant. Vous avez énormément d'universitaires qui s'occupent que de ça. Ils n'y croient pas, mais ils s'occupent que de ça. Il faut être... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces gens-là qui ne s'occupent que de la Bible sans y croire.
Hein? Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Mais ils aiment ça. Bon. Les livres, c'est les amants de la Bible. Et alors, pourquoi je vous ai parlé de ça? Je ne sais plus. Pourquoi je suis rentré là-dedans? Ah oui, même Narmanide. Narmanide et tous ces récits nous ont été racontés parce qu'ils ont le même sens immédiatement perceptible. C'est l'histoire, par exemple l'histoire du paradis. On est au paradis, tout est donné. On n'a pas mérité, expulsé. Jusqu'à Israël, c'est donné. Pas mérité, expulsé. Alors, rattachez ça avec tout ce qu'on a étudié jusqu'à présent, c'est dans la dimension, tant que c'est relié à la cause du mérite. Mais quand on arrive à la fin du troisième exil, gamarnou, c'est clair, n'oubliez pas ça. Hein. Et à partir de ce moment-là, il n'y a aucune clause de mérite. Je vais vous lire d'ailleurs une phrase du Rav tout à l'heure. Et là, vous voyez, la bracha, elle est donnée à l'avance. Si elle est méritée, elle est confirmée. Si elle n'est pas méritée, la klala. Et la klala, c'est l'inverse de la bracha. C'est le contraire de la bracha. Alors ça, on a déjà étudié. Qu'est-ce que c'est que la bracha? C'est la densité d'être, la fécondité. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce que c'est la klala? C'est l'être qui devient fantomatique. Klala se rattache à kal, léger. Alors que la bracha, c'est barreau intensifié. Et je vous avais fait toute une étude sur le premier verset où le terme de bénir apparaît. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le signe de la bénédiction, c'est l'enfant qui naît sur les genoux de la mère. Et c'est pourquoi d'ailleurs les genoux se dit berer, de la même racine que bracha. Le genou se dit berer, pas parce qu'on plie le genou pour recevoir la bénédiction. Ça, c'est les chevaliers de la table ronde. Mais c'est parce que c'est une imagerie de la chevalerie. C'est joli, mais c'est pas ça. Mais c'est parce que le Pérou Urbu, la fécondité qui est plus que l'abondance, la fécondité, c'est ça la bracha. Je vous donnais un verset, ajoutez un verset qui le démontre en clair. Prenez le verset 14 du chapitre 7, dans le nom de Varim. Allez, quelqu'un va prendre le relais, tu veux lire? Attends, lis le verset. Ah ben, on n'a pas encore lu le verset. Lis le verset. Verset, chapitre 7, verset 14. Baruchim. Traduit. Voilà. Traduit. Traduit.
Tu seras béni parmi tous les peuples.
Plus que tous les peuples.
Il n'y aura pas parmi toi. Dans
Vous voyez, que c'est Baruch, c'est qu'il n'y a pas de akaout, il n'y a pas de stérilité. C'est-à-dire, Baruch, c'est la fécondité. Vous pouvez prendre ce verset comme confirmation de l'étude du terme de Baruch. C'est clair ? Et alors, je vais donc m'arrêter là, simplement vous indiquant dans le Retsef, dans le déroulement des enseignements de tout l'ensemble, à partir du moment, et pour expliquer pourquoi la Torah rappelle la commémoration des trois fêtes de pèlerinage, qui sont les événements fondateurs de l'histoire d'Israël, et qui se rattachent d'ailleurs, dans l'enseignement du Midrash, aux trois patriarches. À Pessah, nous vivons l'histoire d'Abraham. À Shavuot, nous vivons l'histoire de Jacob. À Sukkot, nous vivons l'histoire de Yitzhak. Pourquoi dans cet ordre-là rappelez-moi, si vous venez à une étude de Rosh Hashanah Rabbah, je ferai un récapitulé du calendrier, on étudiera ça. Et moi, j'ai oublié. Pourquoi c'est cet ordre-là Abraham, Jacob, Yitzhak. D'ailleurs, ça se relie un peu à notre question. Abraham doit mener à Jacob. Et quand Jacob n'arrive pas à être Israël, il y a la séance de rattrapage, comment on dit ça, dans les examens. L'examen de... On revient avec Isaac. C'est Isaac et Jacob est devenu Israël. Bon, nous verrons cette étude-là. Et alors à ce moment-là, lorsqu'on s'est réidentifié comme descendant des patriarches, par Pessah, Shavuot, Sukkot, où on vit les événements fondateurs d'Israël comme descendants des patriarches, alors il n'y a plus qu'à voir. Vous voyez comment ça se fait ? Bien, voilà ce que je voulais vous dire rapidement en termes de réflexion pour cette paracha. Et oui, une seule, parce qu'il est déjà l'heure.
Est-ce que vous avez dit, si on mérite, tout est donné, des révélations sont données, si on mérite, est-ce qu'on mérite ?
Attendez, j'ajoute un mot à l'avance. Émile, j'explique, et après tu poses ta question. C'est, on l'apprend à partir de la naissance. Par rapport à la naissance, l'être nous est donné avant qu'on le mérite. La naissance, c'est la preuve que la bracha est donnée avant tout. Et on passe toute sa vie à mériter d'avoir été né. Et si on a mérité, on est rené pour le monde à venir. René, renatus. Alors, quelle est la question ?
Parce que c'est au niveau, autant
national
qu'individuel, et si oui, si individuel aussi,
qu'en est-il
de Yov ?
Pas seulement Yov, tous les malheureux de la Terre. Attendez,
oui, maintenant.
Attends, on ne rentre pas dans Yov. Je prends la question elle-même. Tous ceux qui naissent estropiés, tous ceux qui ont des maladies héréditaires, toutes ces choses incompréhensibles qui mettent en échec l'idée d'une égalité de chance pour ceux qui sont nés. Alors c'est un autre problème, ça il faut passer par les Gilgoulim, et en particulier, la question se pose à travers le livre de Job. Ça veut dire, bien sûr, j'ai en tête cette objection apparente, mais ce que je veux dire, il faut d'abord le comprendre à l'échelle de la destinée humaine. L'histoire de l'humanité a ce profil-là, dans l'enseignement du Talmud, c'est donné en clair à profusion. Tout est donné à l'avance. Tu mérites. Débrouille-toi. C'est comment on dit, préservé, comment on dit en français, confirmé. Tu mérites pas, tu le perds. Et tu recommences jusqu'à ce que tu mérites. Parce que c'est pas pour rien que Dieu t'a créé. Il a voulu que tu sois. Donc, les échecs ne sont jamais que provisoires. On finira par réussir, qu'on le veuille ou pas. Seulement, comme c'est fatigant de revenir, il vaut mieux réussir tout de suite. Je sais pas, c'est clair. Parce qu'on vous dit, imaginez quelqu'un qui doit passer un examen et il est candidat perpétuel au bachot depuis 6000 ans. Alors on dit, Pessah, c'est l'examen de passage. Mais tu ne peux pas, Pessah Sheni, médaille. Et tu recommences, vous savez. Vehoser Halila. C'est la raison pour laquelle on a dit Halila, Hoser. Hoser, c'est Halila. Tu vois, c'est clair. Ça veut dire que, dans tous les cas, Dieu sait ce qu'il fait, il nous a créés. Donc on finira par arriver. Soit tout droit et le plus vite possible, soit coup de pied au cœur, mais on finit par arriver. Vous comprenez bien ça, hein ? Et chaque fois qu'on recommence, tout l'acquis est préservé. Ça explique les inégalités à la naissance. Enfin, en partie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Pourquoi il y a des gens qui naissent coiffés et il y a des gens qui naissent sans kippa, enfin qui meurent sans kippa. Mais voilà le vrai problème. Bon, ça c'est le mystère des Gilgoulim, Mais la question est centrale. Okay, ça n'empêche, ça ne contredit pas la thèse générale. La vie est donnée à l'avance et c'est a posteriori qu'elle est méritée. Alors si elle est mal méritée, elle est malheureuse. Et si elle est bien méritée, elle est bien heureuse. Mais dans tous les cas, on arrivera là-haut, chacun à son tour. Et méfiez-vous, Ken, il y a des gens qui espèrent qu'il n'y a rien après la mort. N'y comptez pas, Ken, c'est inéchappable. Il y a un verset que Dieu dit à Job, Ken, que tu veux te sauver de moi, même dans la tombe, je t'attends. C'est inéchappable. Il ne fallait pas accepter de naître, maintenant, c'est trop tard. C'est irréversible. J'espère que je vous ai rassuré. Bien. Alors, vous allez passer des bonnes vacances, de bonnes fêtes, et puis on va se retrouver avec un gouvernement renouvelé pour les fêtes de l'année qui vient. Maintenant, comment il sera renouvelé ? Bon, allez. Alors, on reste pour avril.